Panorama Économie.
Vous avez pris l'habitude de suivre Panorama Économique chaque week-end. Merci de nous témoigner cette fidélité. Donc c'est dans ce magazine que nous faisons la rétrospective économique de la semaine et avec un invité. Mais d'abord, le sommaire. C'est depuis lundi dernier que la RDC est connectée à la fibre optique à partir du point d'atterrage de Mwanda dans le Bas-Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, Joseph Kabila. Et puis la semaine, nous avons également parlé de cette colère des agents de la Sokimo à Bounia, en province orientale. Ils ont manifesté pour exiger le départ du comité de gestion de cette société. Ils reprochent donc à l'équipe dirigeante de mauvaise gestion et la mauvaise affectation des fonds. La France et la RDC ont signé mercredi deux accords. Le premier est un contrat de désendettement et développement évalué à 106 millions d'euros. Et le second, la convention des finances avec le programme alimentaire mondial PAM vaut 700 000 euros. Ces sommes visent principalement à lutter contre la pauvreté. Nous aborderons aussi plusieurs autres sujets dans ce magazine économique. La présentation de cette émission est signée François Kadima. Nous allons commenter l'actualité économique ce samedi avec Romain Mukendi. Il est notre invité donc. Lui est géologue et je pense l'avoir bien présenté.
Merci Monsieur François Kadima. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans notre magazine Panorama Économique.
Merci.
Panorama Économique, le dossier.
Nous allons commencer par l'entrée officielle de la RDC dans le monde de la fibre optique. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a inauguré la station d'atterrage de Mwanda au Bas-Congo lundi dernier. Un projet qui a pris 5 ans et coûté au gouvernement congolais 60 millions de dollars américains. Alors, quelles sont les retombées économiques de la fibre optique au niveau du continent africain? Trifon Kinke Mulumba explique.
En Afrique au sud du Sahara, l'industrie de la téléphonie mobile réalise déjà 32 milliards de dollars. D'ici un futur proche, l'économie numérique va fournir à la sous-région 15 millions de nouveaux emplois. Au seul premier trimestre 2013, en Afrique au sud du Sahara, 500 millions de nouvelles connexions ont été réalisées. Le boom technologique et économique qui pousse les 800 majors rassemblés au sein de la GCMA de se déployer en Afrique, à Nairobi, au Kenya, afin d'être proches des marchés émergents, ceux du continent africain. En l'occurrence, le Congo ne saurait être en marge. Nous voulions assurer le Congolais. Les milliards de dollars que brassent dans leur sillage, les TIC, ne sauraient être pour d'autres et pas pour le Congo. Déjà, depuis peu, les chiffres à la DGI, à la DGDEA, à la DGRAD montrent cette puissance. Jamais les TIC n'avaient été aussi prééminents comme service d'assiette. Ce n'est que le début d'un mouvement.
Les propos du ministre des Postes en téléphone et nouvelles technologies, Trifon Kinke Mulumba, ont été recueillis par notre envoyé spécial à Mwanda, Innocent Olinga, qui était sur place. Par rapport à la gestion de ce réseau par la Société Congolaise des Postes et Télécommunications SCPT, je vous propose de suivre l'entretien que nous avons eu avec l'administrateur délégué de cette société, Placide Mbatika. Bonsoir Monsieur Placide Mbatika.
Bonsoir.
La RDC est connectée à la fibre optique depuis la station d'atterrage de Mwanda dans le Bas-Congo. Est-ce que cette connexion aura un impact sur la qualité et le prix de communication en RDC?
Ça va apporter la qualité dans la télécommunication. La station de Mwanda constitue l'aéroport international de l'information. C'est par là que toutes les informations qui concerne la RDC, la communication, la transmission, les signaux vidéo, les signaux audio et télévision peuvent transiter pour atteindre le monde extérieur. Et ça va permettre aussi à ce qui est échange par rapport à ce qu'on appelle la téléconférence, aussi la télééducation et la télémédecine. Ça va apporter une révolution par rapport au prix, dans le sens que les opérateurs actuellement utilisent les voies satellitaires, l'espace satellitaire qui s'avère être très coûteux et qui aussi prône, qui souffre des interférences de la météo. La SCPT va vendre la capacité en termes de gros. Les opérateurs vont en bénéficier. bénéficier dans ce qui concerne le prix. C'est le régulateur du secteur qui aura cette compétence de vérifier les prix, mais ce qui est vrai que les prix vont sensiblement baisser.
Pour que cette baisse de prix soit effective, il faut que tout le pays soit connecté à la fibre optique. Alors que jusque-là, il n'y a que la ligne Bakongo-Kinshasa. Comment ça va se passer pour les autres provinces?
Bon, en ce stade, vous savez qu'il n'y a qu'une seule sortie. Donc, tous les appels, quels que soient les coins du pays, les sorties vont passer par Kinshasa. Kinshasa, ça prend la fibre optique. Mwanda, et ça sort directement à l'étranger. Donc, nous parlons du terme des baisses de prix par rapport aux appels extérieurs qui transitent par la fibre optique.
C'est la SCPT qui a la charge de la gestion du réseau de la fibre optique et les maisons vont acheter les services. Est-ce que cela va avoir un impact positif sur les conditions salariales de vos agents?
La fibre optique apporte une solution, non seulement pour les opérateurs, mais en termes sociaux. Les agents de la SCPT, ça apporte plus d'espoir, plus de réminiscence par rapport à leurs revenus. La SCPT n'a plus produit. Vous savez que l'État congolais, depuis plus de 20 ans, n'a jamais investi dans la SCPT. Donc, les retombées de la fibre optique vont également modifier le salaire des agents. On va y arriver parce qu'on y tient.
Monsieur Placide Mbatika, Radio Capi vous dit merci.
Je vous dis merci aussi.
Placide Mbatika, administrateur délégué de la SCPT. Monsieur Romain Mukendi, je rappelle que vous êtes notre invité. Nous avons suivi d'abord le ministre Tryphon Kinkemulumba de Poste Téléphone et Nouvelles Technologies. 15 millions d'emplois dans un futur proche seront créés dans la région de Grand Lac avec l'arrivée de la fibre optique. Ce qui va diminuer sensiblement le chômage, surtout en RDC, à entendre parler le ministre et booster notre économie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je me réjouis de la question que vous posez. Eh bien, quand j'essaie de comprendre ce que dit le ministre et quand j'essaie de réfléchir aussi également, je trouve que c'est déjà un grand pas en avant par rapport à ce que le chef de l'État ait donné de lui-même toute l'impulsion pour que l'arrivée de la connexion fibre optique soit effective dans notre pays, ce qui est déjà très intéressant au départ. Mais je voudrais aussi revenir pour dire, adresser au ministre le fait que, bon, la gestion passe par l'OCPT. Et que dans le temps, on a vu que bon, la gestion de l'OCPT n'a pas été très bien reçue, par voie des conséquences. Aujourd'hui, l'ADG de l'OCPT vient de le dire, que bon, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils ont promis de faire. Alors je crains et je voudrais peut-être suggérer que dans le prochain temps, qu'on espère de voir un consortium ou un partenariat qui se crée entre un partenariat public-privé, comme ça que la gestion des privés est beaucoup plus méticuleuse que la gestion de l'État, parce que bon, quand c'est l'OCPT, on se dit que c'est de l'État à l'État, et donc quand quelqu'un il n'a pas bien géré, qu'il est peut-être viré, donc c'est quelqu'un d'autre qui revient, donc il n'a pas à savoir ce qui a été fait avant, il n'a pas non plus à réclamer la suite. Et donc par rapport à ça, je suis content que voilà, qu'on va créer des emplois, et ça c'est très important. Et par rapport à 15 millions, donc si au prorata, donc nous avons une part dans les 15 millions pour les emplois, c'est un acte très très applaudi.
Le problème, c'est la qualité des services exigés par les maisons de télécommunications qui vont acheter le service à SCPT et la baisse de prix de communication par rapport à la fibre optique. Il y aura des emplois qui seront créés. Est-ce que la SCPT aujourd'hui peut y arriver sans les concours d'autres partenaires, parce que c'est elle qui est censée assurer la gestion de ces réseaux, donc la fibre optique.
Alors, par rapport à ça, nous remarquons qu'il y a un corollaire qui se dégage, parce que, en règle générale, quand les sociétés publiques de l'État ont géré la chose publique, on l'a vu, le cas de la GECAMINE notamment, vous déplorez le cas de la SOKIMO, on déplore aujourd'hui les cas de l'SCPT, donc cette responsabilité directe des responsables congolais à la tête des entreprises publiques n'a pas donné beaucoup de meilleurs effets. Et donc, à mon avis, je préfère et suggère entre autres que bon, un partenariat qui se crée comme ça, que ceux qui vont gérer aient d'abord l'avantage de savoir que bon, la gestion de la chose publique est totalement différente de la gestion de la chose privée. Et que l'argent qui revient de droit au trésor public aille strictement à bon escient à cet endroit, qu'il ne soit pas non plus détourné à la destination. Et voilà, qui a fait que bon, ça se dégage, que en règle générale, ça n'a pas été très bien géré par rapport à ça.
Vous parlez d'un partenariat public-privé, mais il y a l'administrateur délégué de SCPT qui a les agents. Il a dit que à travers la fibre optique, les agents vont voir la rémunération s'améliorer. Et s'il y a un partenariat, comment ça va permettre à SCPT de bien améliorer les conditions du personnel?
Quand il y a un partenariat qui se met en place, que tout est proportionnellement fonction de travail de qualité rendu, et que si l'OCPT à lui seul s'occupe de faire ce travail et que les agents ne sont pas très bien rémunérés, on l'a vu durant toutes les décennies qui sont passées, et ce qui fait que les mêmes causes produisant les mêmes effets, je redoute que cela se reproduise encore davantage.
Voilà, je rappelle que c'est Romain Mukendi qui est notre invité. Il est expert géologue. Passons à autre chose. À Bounia, plus de 200 agents de la société minière de Kilomoto Sokimo étaient en colère la semaine. Ils protestaient contre la mauvaise gestion observée au sein de cette entreprise, notamment le manque de production, une mauvaise affectation des fonds octroyés par le partenaire. Dans leur mémorandum adressé au Premier ministre et déposé au commissaire du district de Litouri, ces agents demandent le départ du comité de gestion de cette société. Le porte-parole du travailleur de la Sokimo, Henri Bassimaki, revient sur leurs revendications.
Nous avons trouvé en tout cas une démagogie autour de beaucoup de choses. La relance de la production, le cas de l'usine modulaire de Moku, qui ne produit rien jusqu'à aujourd'hui. Le cas de la remise du titre minier de Kibali Site, que nous n'avons pas encore eu jusqu'à présent. Le cas de la régularité des salaires qu'on a toujours dit, qui ne vient toujours pas. Et le paiement des décomptes finales des non-retraités et décédés. Il y a une mauvaise affectation des fonds que le partenaire Kibali nous avait donné. Que ce fonds a été beaucoup plus orienté vers l'usine modulaire de Mok. Nous avons recommandé tout simplement le départ immédiat de ce comité de gestion. Donc, dans 48 heures, nous avons demandé le paiement des arriérés, le retour immédiat du siège de la direction générale aux exploitations et la remise en état de la centrale hydroélectrique de Boudana. Au cas où le travail n'arrivait pas à trouver satisfaction dans les revendications, nous demandons à l'État congolais qui est propriétaire de la société ou de programmer un départ honorable des retraités et des retraitables.
Oui, Henri Bassimaki était au micro de notre correspondant Martial Kizabiamungu. Alors Romain Mukendi, ça bouge à la société minière de Kilomoto, Sokimo. Les agents accusent le comité dirigeant de mauvaise gestion. Alors comment on peut expliquer une telle situation à la Sokimo, cette société qui exploite une matière très précieuse, qui est l'or?
Oui, disons que je compatis déjà au départ avec la misère de cette population des travailleurs de Sokimo. Ils viennent là maintenant de bouger le curseur vers le comité de gestion, donc vous comprenez que à mon avis, à première considération, j'avais l'impression de croire que j'avais deux cas de figure ici pour poser. Mais quand j'essaie de les confronter, je constate que c'est le même problème qui ne sera pas traité au cas par cas. Revenons à l'exemple de la Gécamines, qui est aussi une société minière,
qui a
eu le même parcours. Ça veut dire quand l'argent, etc., les produits sont vendus, le pipeline en fait financier, je veux dire, et il semble très très compliqué avec beaucoup de méandres, ce qui fait que bon, les partenaires, eux, quant à eux, ils arrivent à honorer leurs engagements, mais c'est quand les fonds reviennent vers l'entreprise qui est censée gérer le personnel congolais, qui n'arrive pas à repartir par rapport à ce qui a été prévu. Alors voilà pourquoi, ce qui fait que bon, la population se plaint, c'est que les retombées n'arrivent pas, qu'ils ne voient pas exactement les salaires payés régulièrement.
Est-ce que Sokimo aujourd'hui produit de l'or comme par le passé? Est-ce que a-t-elle de partenaires pour arriver à... Parce que les agents exigent, ils condamnent la mauvaise gestion.
Disons que la production, il y a eu un ralentissement très notable de la production de la Sokimo, parce que quand vous regardez comparativement à ses partenaires miniers dans la province qui se sont installés, ils ont le capital financier qui apporte toutes les techniques possibles et qui apporte aussi les moyens de production adéquats. Et par contre, quand vous rentrez dans les installations de la société qui est la nôtre, les moyens ne suivent pas. Donc la production est très ralentie par rapport à ça.
Alors comment éviter une telle situation à la Sokimo?
Et donc c'est de reprendre d'abord la conscience du Congolais gestionnaire de la chose qui doit se dire que bon, si les partenaires privés sont en mesure de rentabiliser leur production, de mettre les agents dans les meilleures conditions de travail, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une copie de ce qui a été fait de l'autre côté en regard qui sont déjà en face de nous, et comme ça on améliore les conditions. C'est une question de volonté par rapport à nos gestionnaires congolais.
Voilà, merci Monsieur Romain Mukendi. Nous allons continuer. Un autre fait et a marqué la semaine, c'est la signature de deux accords entre la France et la République démocratique du Congo. D'une part, le premier contrat de désendettement et développement qui est de 106 millions d'euros et d'autre part, la convention de financement de 700 000 euros avec le programme alimentaire mondial PAM. Les deux cérémonies organisées successivement à l'ambassade de France à Kinshasa puis au ministère des Finances ont été sanctionnées par une conférence de presse. Le ministre congolais délégué aux finances a souligné l'importance de sommes libérées pour financer la lutte contre la pauvreté. Et la ministre française déléguée à la francophonie a invité le gouvernement congolais à poursuivre les efforts de la gouvernance pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Jeff Ngoï nous explique.
L'OCDE constitue un acte de confiance entre les deux pays. Il couvre la période de 2013-2016. Ses priorités sont l'éducation, la formation professionnelle, l'assainissement de l'eau et la gouvernance financière. Le ministre congolais Patrice Kitebi décortique le contrat.
L'OCDE que nous venons de signer a un certain nombre de piliers stratégiques, l'éducation notamment, la formation professionnelle. Ça rentre justement dans ce que vous évoquiez tout à l'heure en termes d'inclusion de la croissance. Déjà, le fait que l'essentiel de ressources de ce premier CDD soit consacré au secteur de l'éducation, 40 millions de dollars, et la formation professionnelle, 25 millions d'euros, marque également la volonté à la fois du chef de l'État, qui veut que la croissance dans ce pays devienne une croissance de plus en plus inclusive et qui bénéficie à un grand nombre de la population.
Avec le PAM, la ministre française Benguigui affirme que le financement permettra de soutenir les populations déplacées de la province orientale et de Kivu.
Ces deux signatures symbolisent la complémentarité de l'aide qu'apporte la France à la RDC. Il s'agit à la fois de répondre à des situations d'urgence humanitaire.
La France avait déjà accordé à la RDC des allégements dans le cadre de l'initiative PPTE et le CDD consacre un effort additionnel.
Jeff Ngoï, alors Romain Mukendi, 2 millions de dollars de la France pour entre autres financer l'éducation, l'assainissement et la gouvernance financière.
Disons que je dis que c'est un bon apport, bienvenu par rapport à ça. Donc je dis coup de chapeau à la France de nous donner un coup de pouce, mais je reviens toujours au problème de départ. Ça veut dire que avec la nouvelle citoyenneté qui a été créée, qu'on essaie de ramener tous les Congolais à la prise de conscience de ses responsabilités par rapport à la gestion de la chose publique, et que des fonds comme ça qui sont alloués à notre gouvernement pour des projets bien précis devraient être normalement amenés à destination de manière efficiente. Et à ce moment-là, vous savez, quand on donne des fonds comme ça, c'est à l'échelle du pays. Donc, par moment, certains objets, certains faits passent de manière imperceptible qu'on ne voit pas tout de suite. Hein, parce que assez souvent, on a dit qu'il y a des projets qui sont financés, qui viennent en appui par rapport à ceci. D'autres pays viennent aussi également le faire. On l'a fait, l'initiative PTTE, on l'a vu ça. Donc, il faut que nous ayons aussi nous-mêmes un apport très bénéfique par rapport à ce que nous recevons, que nous soyons très consciencieux et que la destination soit effective de tous ces fonds.
Dans le reportage de notre reporter Jeff Ngoï, le ministre congolais délégué aux finances a souligné l'importance des sommes libérées pour financer la lutte contre la pauvreté. Et la ministre française déléguée à la francophonie, elle a invité le gouvernement congolais à poursuivre les efforts de la gouvernance pour améliorer le climat des affaires, attirer les investisseurs. Alors comment ces recommandations peuvent se traduire réellement en actes? Parce que la pauvreté continue à gagner, comme le pays, ça il faut le dire.
Bon, évidemment, cette pauvreté est fonction du rendement de travail qui est accompli, abattu par la population congolaise. Plus on travaille, plus davantage les ressources arrivent, la production augmente à ce moment-là, les retombées, par voie de conséquences, sont telles que la situation peut s'améliorer. Alors, quand on déplore la famine, etc., la pauvreté, c'est parce qu'effectivement, que le peuple n'a pas, tout Congolais n'a pas encore pris la conscience de mettre la main à la pâte pour la construction de l'édifice national. Donc, ce que je veux, moi, recommander, demander hautement, c'est de dire que tout le monde se mette à travailler parce que vous n'avez pas, en dehors du travail, un facteur qui soit multiplicateur de vos ressources.
Parce qu'on sent qu'il y a toujours des financements, pas seulement la France, il y a d'autres pays qui apportent, qui subventionnent, mais on sent que les choses ne bougent pas. Or, comment sortir de la pauvreté, la population congolaise?
Oui, c'est une bonne question, mais par rapport à ça, ma réponse, rapidement tout de suite, serait de dire, c'est la bonne gouvernance, la bonne gestion à laquelle c'est un exercice très délicat auquel en ce moment on est tous évertués, que le chef de l'État lui-même a donné un coup de pioche pour montrer que nous devons arriver à tout ça. Et que si systématiquement on a tous la même conscience, qu'on a la même volonté de le faire, et je crois que dans les jours à venir, effectivement, en ce moment, on ne le sent tout de suite pas, que les investissements qui arrivent comme ça en appui par des pays étrangers, que bon, la repartition et la matérialisation de nos projets, par moment, il y a certains projets qui n'arrivent pas, à éclore. Donc, je voudrais que chacun soit très consciencieux et que les choses arrivent à destination.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques éléments en bref, en production du pain dans le Bas-Congo, précisément à Kimpese. On associe la farine de blé à celle du manioc pour fabriquer du pain. Ce pain est produit par l'usine de transformation du manioc dirigée par le père Charles Koussika. D'après ce prêtre, ce projet qui intègre jusqu'à 15% de la farine du manioc dans la farine de blé va permettre à l'économie congolaise de gagner 500 millions de dollars sur les 4 milliards de dollars américains que représentent les importations de la farine de blé. Et puis le comité provincial de négociation du Maniema interdit toute vente de minerais au comptoir Maniema Mining Company installé à Kalima. Une décision prise à l'issue de leur réunion extraordinaire tenue dans cette cité. Selon le président des négociants du Maniema, cette décision fait suite au non-respect par ce comptoir de clause de la convention entre les négociants aussi suite au lancement de ses activités à Kalima. Les responsables du comptoir Maniema Mining Company lui promettent de ne parler qu'après une rencontre avec les créseurs. Parlons de la taxe sur l'exportation de concentrés qui est revue à la hausse par le gouvernement central. Elle passe des 60 à 100 dollars américains la tonne. L'annonce a été faite jeudi par le ministre des Mines aux opérateurs économiques du Katanga. D'après Martin Kabouloulou, cette hausse va permettre à l'État congolais de récupérer un manque à gagner constaté dans les secteurs. Alors, Romain Mukindi, un commentaire sur l'un ou l'autre fait de la semaine.
Bon, je suis content de voir l'évolution de l'économie de notre pays engagée par différents secteurs, notamment le secteur des mines. Et quand le ministre des tutelles intervient pour dire que bon, l'État peut encore davantage récupérer par rapport aux taxes, évidemment, c'est pas une bonne chose. Mais quand tout cela est conglomeré, donc associé pour un but final qui soit une répartition de tous ces fonds récoltés, qui peuvent servir à des investissements d'autres secteurs dans la République, c'est donc une bonne chose. Alors ça me plaît de voir que cela se passe, mais je voudrais aussi rappeler que j'ai suivi une fois que le ministre des Mines, ayant parlé de l'encouragement des sous-traitances au niveau des entreprises minières dans le Katanga par rapport aux Congolais, parce qu'en règle générale, on a vu que la sous-traitance était particulièrement l'affaire des expatriés qui arrivaient, avec sous prétexte que, bon, ils apportaient la technologie, etc. Mais le ministre des Mines a promis qu'il ferait un effort dans ce sens pour encourager une classe, naissance d'une classe moyenne des entrepreneurs congolais, capables aussi d'apporter la même technologie avec des prix probablement très bas.
Nous avons aussi parlé de la production du pain dans le Bas-Congo, précisément à Kimpese, où un prêtre associe la farine de blé à celle du manioc pour fabriquer du pain.
C'est un bon projet, et donc encourager l'agriculture, qui devra être normalement l'un des piliers, les principaux piliers de notre économie. Vous savez que les ressources minières dont nous parlons, nous nous targuons aujourd'hui, sont des ressources qui sont non renouvelables. Donc on devra tous avoir un œil et un regard vers dans cette direction de l'agriculture et essayer de la booster aussi, parce que c'est donc naturellement ce qui pourra soutenir le pilier, le grand pilier, qui pourra soutenir l'économie de notre pays dans le futur. Donc on doit déjà, d'ores et déjà, poser les bases de cette agriculture. Et moi, je salue au passage ce prêtre qui a pris cette initiative, et donc je l'encourage.
Et il dit que l'économie congolaise va gagner 500 millions de dollars sur les 4 milliards de dollars américains qui représentent les importations de la farine de blé. C'est possible?
Donc, par définition et par rapport aux prévisions qu'il a, il a le droit de le dire si tout cela s'entrechevêtre et qu'il y a un suivi sérieux. Donc, avec un minimum de sérieux, à mon avis, on peut arriver à ça. Donc, c'est des efforts louables.
Matières premières.
Voilà, nous allons parler du cuivre. Depuis un temps, le nombre des sociétés qui exploitent le cuivre ne cesse d'augmenter dans le pays, principalement dans le Katanga. Une question se pose, pourquoi le cuivre attire autant d'exploitants privés, alors que la Gécamines, première exploitante de ce métal dans le pays, reste l'ombre de lui-même. Alors, Romain Mukindi, vous êtes géologue. Vous en avez parlé dans notre journal Écho d'économie de jeudi dernier.
Disons que dans cette émission passée, j'ai dû très simplement expliquer quelle était l'importance de ce minerai, pourquoi il attire tant de personnes à venir s'installer dans le pays pour son exploitation et sa commercialisation. Effectivement, je les répète maintenant, que c'est un minerai qui est un très bon conducteur de chaleur principalement et qu'il a plusieurs qualités qui sont exploitées dans plusieurs applications. Alors la présence de ces multinationales, de toutes ces sociétés qui arrivent de partout pour s'installer dans notre pays et que la Gécamines, comme vous venez de le dire, s'efface et donc a un caractère plus ou moins, on va dire, masqué, c'est tout simplement parce que elle a eu l'avantage d'avoir toute la concession, mais les moyens de production n'ont pas été mis à la disposition des travailleurs, ce qui fait que ça s'est réduit, elle a cédé ses parts dans les partenariats qui sont créés, et donc quand les conditions sont alléchantes, ces sociétés viennent, et en accord avec la Gécamines qui représente le gouvernement dans le secteur minier, donc ils passent de marché, et les autres se mettent à travailler, à explorer notamment. Alors, je soutiens ceux qui font la recherche pure. Ça veut dire qu'ils commencent par une exploration, par moment, par des endroits ou des zones qu'on va appeler des zones vierges. Et à ce moment-là, arrivent à des concentrations, à mettre en évidence des gisements importants. Et ça, c'est le cas de certaines sociétés dont je ne veux pas citer le nom ici, mais c'est un plaisir comme travail abattu.
Mais aujourd'hui, la production du cuivre n'est pas très forte. C'est quoi le problème? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour booster ou augmenter la production?
Mais je crois que si vous aviez suivi le speech de ministre de tutelle, de ministre de Mines, il y a quelques jours passés, il a démontré que la production dans le temps, quand on parle de 450 000 tonnes de cuivre, que la Gécamines avait tous les moyens de production à sa disposition et qu'aujourd'hui, pour cette année par exemple, pour vous donner des chiffres, je vais ramasser très rapidement ce qui a été repris par le ministre de Mines. Il dit par exemple que pour cette année, on espère retrouver autour de 800 000 tonnes de cuivre produit dans le Katanga, donc c'est de cuivre cathodique qui va attirer 99,9%. Donc, à mon avis, c'est déjà bien parce que tout ce tonnage, quand ça passe légalement dans la transparence, que l'État peut retrouver le jus des impôts, etc., dans les taxes qui sont payées, et donc c'est une affaire assez, à mon avis, encourageante. Donc, on ne va pas dire que la production ne baisse pas. Par contre, les privés qui sont dans les partenariats sont en train de faire un effort pour accroître leur production et dans les recherches qui sont également mises en place.
Voilà, un petit mot sur vous, Romain Mukindi, parce qu'on va finir.
Comme j'ai dit au départ, je suis géologue d'exploration senior consultant, et donc très permanent, on va dire, dans le Katanga où j'ai fait plusieurs années d'expérience, passant par différentes entreprises multinationales. Et donc, en ce moment, je reste pas seulement dans le Katanga, mais je bouge aussi partout ailleurs, dans l'Est de la République, partout où il y a des gisements potentiels sur lesquels nous pouvons toujours mettre à faire des apports dans les recherches. Et voilà, ça nous intéresse par rapport à ça. Et on est donc très content d'avoir été reçus chez vous. Et donc, au passage, je dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, c'est la fin de cette émission Panorama économique. La présentation était signée François Kadima, sous la coordination de Nicole Ngaka. Merci à Mireille Bukassa, Paul Matendo et aussi Daniel Tabinzoni qui font partie de cette équipe Écho d'économie. Nous allons nous retrouver le week-end prochain pour commenter l'actualité de la semaine économique. Merci, au revoir.